Nous lisons dans le psaume 130 au verset 7, Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. L'épître de Paul aux Romains, au chapitre 3, verset 23, un texte bien connu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. L'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1er, verset 12, « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, et nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Et enfin, un dernier texte, l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 11. « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré, une fois pour toutes, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Tous ces textes ont en commun une notion fondamentale du salut, la rédemption. Et nous aurions pu encore trouver beaucoup d'autres textes qui parlent de rédemption ou de rachat. Le mot rédemption est souvent utilisé dans un sens général pour parler du salut. Jésus dira, quand cela commencera à arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre rédemption approche. Il aurait pu dire, votre salut approche. La rédemption fait partie de ce que j'appelle les grands mots du salut, comme justification, expiation, propitiation, réconciliation, adoption, régénération, substitution. C'est un mot qui peut paraître compliqué, mais il y a une notion simple. Pour certains, aujourd'hui, le mot rédemption ne leur parle pas. Il ne signifie rien, car c'est un mot qui n'est plus utilisé. Mais je le dis bien, il paraît compliqué, mais il ne l'est pas. Le mot rédemption est un mot tiré du langage commercial. Il signifie achat ou rachat. Notons aussi que pour d'autres, le mot rédemption a pris un sens actuel qui ne correspond pas au sens biblique. Aujourd'hui, quand on parle de rédemption pour une personne, on parle d'une personne qui essaie de réparer ses erreurs en changeant de conduite. Ce n'est pas le sens biblique du mot, cela va même à l'encontre de ce que la Bible enseigne puisqu'elle déclare « ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ». À l'époque du Nouveau Testament, le mot « rédemption » avait une signification pour tout le monde, justement parce qu'il était tiré du langage commercial et pas de n'importe quel commerce. Ce mot était particulièrement utilisé dans le commerce des esclaves. L'esclavage était quelque chose de courant à l'époque du Nouveau Testament. Du temps des Romains, les hommes étaient classés en trois catégories. Et il y avait les esclaves. Ils n'avaient que très peu de droits. Leurs propriétaires, sauf parmi les Juifs, avaient quasiment droit de vie ou de mort sur eux. Et il y avait les affranchis, qui jouissaient d'une certaine liberté. Les esclaves avaient la possibilité d'être affranchis s'ils étaient rachetés par quelqu'un d'autre, en contrepartie, bien sûr, d'un prix élevé. Et puis, il y avait les citoyens romains. Paul avait la citoyenneté romaine de par sa naissance, mais ce droit pouvait aussi s'acquérir par l'achat de ce droit. Là aussi, le prix était très élevé. L'esclave pouvait donc changer de propriétaire s'il était racheté par une tierce personne. Il pouvait aussi être libéré, affranchi, si le rédempteur payait le prix de son rachat, puis lui donnait sa liberté. C'est ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous, nous qui étions esclaves du péché, et qui avons placé notre foi dans la personne de Jésus-Christ le rédempteur. Pour les Juifs, cette notion de rédemption avait aussi du sens à cause de la loi. Dans la loi, il est plusieurs fois question de rachat. Et il y avait le rachat des premiers-nés. Ce rachat est en lien avec l'Exode et la libération de l'esclavage en Égypte. Et puis, il y avait aussi la loi du rachat par le plus proche parent. Nous trouvons cette loi dans le livre du Lévitique, au chapitre 25, verset 47. La loi concernant le droit de rachat de parenté est une bonne illustration de ce qu'est la rédemption. D'après cette loi, un homme qui avait vendu sa propriété et même qui s'était vendu comme esclave parce qu'il avait des dettes, avait la possibilité de retrouver ses propriétés et sa liberté n'importe quand, à condition d'être racheté par son plus proche parent. Les conditions pour pouvoir être racheté étaient que le rédempteur devait être le plus proche parent, qu'il le veuille bien, et bien évidemment qu'il en ait les ressources. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Il s'est fait proche parent en devenant semblable à nous. Il l'a voulu au point de ne plus considérer son égalité avec Dieu. Et il a payé le prix fort, celui de son propre sang. Voilà pourquoi la notion de rédemption était quelque chose que tout le monde pouvait comprendre assez facilement, à cause de son allusion directe aux transactions commerciales, notamment concernant l'esclavage, et à cause de la loi qui y faisait mention et allusion. La rédemption accomplie par Jésus-Christ est donc quelque chose de simple à comprendre. Jésus a payé le prix de notre salut par son sang versé à la croix, afin de nous libérer de l'esclavage du péché. La différence entre l'esclave au temps des Romains et l'esclave du péché que nous sommes est que cette rédemption doit être acceptée par son bénéficiaire. Elle n'est pas automatique, elle n'est pas tacite, elle doit être acceptée par celui qui en bénéficie. Voilà pourquoi les hommes et les femmes doivent être placés devant leur péché et devant la prédication de la croix pour qu'ils puissent prendre conscience de cette réalité. La notion de rédemption met particulièrement en évidence quelques aspects du salut. Je voudrais en faire ressortir trois. D'abord, elle présente la croix comme une transaction commerciale, comme un marché conclu. Le péché est comparé à plusieurs reprises dans l'Évangile à une dette. Jésus a donné à plusieurs paroles dans ce sens, notamment des paraboles. Et le péché est comparé à une dette tellement élevée que l'homme ne peut pas la rembourser. Dans le psaume 49, au verset 8, il est dit « Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre ». Le pardon est comparé à la remise d'une dette. Quand Jésus dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons », dans un autre contexte, ce texte aurait pu être traduit ainsi « Remets nos dettes comme nous aussi nous les remettons ». Pardonner, c'est remettre une dette. Ce sont les mêmes mots et c'est souvent en fonction du contexte que les traducteurs ont choisi de parler de dette ou de remise de dette plutôt que de pardon. Conséquence, la croix est donc comparable à la signature d'une transaction commerciale, à la conclusion du marché. Jésus a payé le prix de notre rançon et de notre mise en liberté sur la croix. En comparant le péché à une dette qui doit être remboursée, nous comprenons que le problème qui doit être réglé est le remboursement de la dette, peu importe celui qui rembourse. Si vous avez une dette, votre créancier acceptera tout remboursement, même s'il est fait par une tierce personne. Si vous avez une amende à payer, l'État ne regardera pas qui paye du moment que l'amende soit payée en votre nom. Jésus a remboursé notre dette, il a payé par le don de sa vie, par son sang. Une autre remarque intéressante qu'il est bon de faire maintenant, dans la loi du rachat, par le plus proche parent, le créancier était obligé de rendre la personne ou les biens quand le proche parent faisait valoir son droit de rachat. Quand un homme place sa foi en Jésus-Christ, Jésus-Christ fait valoir son droit de rachat et la transaction qui a eu lieu à la croix, Satan, lui, est obligé de s'exécuter. La rédemption met aussi en évidence le changement de propriétaire. Quand un commerce ou un restaurant change de main, il y a souvent un panneau ou une banderole qui annonce « changement de propriétaire ». Le nouveau propriétaire tient à faire savoir « le changement. Le Seigneur n'a pas besoin de mettre une pancarte autour de notre cou pour signifier le changement de propriétaire. Notre manière de vivre doit être ce panneau. Mais la conversion à Jésus-Christ signifie bel et bien un changement de propriétaire. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, l'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens et les interpelle. Il leur dit ceci: « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Dans les versets qui précèdent, l'apôtre Paul exhorte les Corinthiens à fuir la débauche, à ne pas vivre n'importe comment. Et il motive son exhortation en leur rappelant qu'ils ne s'appartiennent pas à eux, mais que désormais ils appartiennent à Dieu, qui les a rachetés à un grand prix. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a changé de maître et de propriétaire. Il est passé d'un mauvais propriétaire au meilleur des propriétaires. J'ai dit juste avant qu'un esclave pouvait être racheté pour devenir l'esclave d'un autre, ou il pouvait aussi être rendu libre. Mais comprenons bien que la liberté, la vraie liberté, elle est dans le fait d'appartenir à Jésus-Christ et de rester auprès de lui. Au XIXe siècle, en Amérique, à la descente du bateau, les esclaves en provenance d'Afrique étaient vendus. Un homme qui assistait à ce commerce fut à un moment donné indigné, et quand il vit un vieillard qui était proposé à la vente, l'homme dit alors au vendeur: « Tu devras avoir honte, libère cet homme !» Et le vendeur lui répondit: « Si tu veux qu'il soit libéré, c'est tel prix. » Et l'homme comprit qu'il ne pouvait faire autrement que de payer le prix. Alors il paya le prix immédiatement et il dit au vieillard: « Tu es désormais libre. » Le vieillard, libéré de ses chaînes, perplexe, ne sachant que faire, se tourna alors vers l'homme qui avait payé le prix et lui dit: « Prenez-moi avec vous, je vous servirai. » Ce qu'il accepta. Cette anecdote, malheureusement vraie et navrante, illustre bien ce que Jésus a fait pour nous et aussi la bonne décision qui doit être prise, celle de nous attacher à notre propriétaire. J'aime beaucoup cette déclaration de Paul qu'il fera sur le bateau alors qu'il est emmené à Rome et il est prisonnier et il déclare bien fort devant tout le monde le Dieu auquel j'appartiens. Paul savait que Jésus avait payé le prix fort et que son seul propriétaire, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Enfin, la notion de rédemption met aussi en évidence un salut coûteux d'un grand prix. Nous aimons annoncer la gratuité du salut. Nous aimons prêcher le don gratuit de Dieu. Le salut est gratuit. Il n'y a pas à payer, ni en argent, ni en œuvre, ni en compensation, ni en souffrance. Le salut se reçoit par grâce, par le moyen de la foi. Mais la gratuité du salut ne signifie pas que le salut en Jésus-Christ est sans valeur. Ce qui est gratuit aujourd'hui est en principe de faible valeur. Mais le salut en Jésus-Christ, tout en étant gratuit, est d'un coût très élevé, celui du sang de Jésus-Christ. Je reviens sur la parole de Paul aux Corinthiens. Paul dit à ses Corinthiens insouciants et légers qu'ils ont été rachetés à un grand prix et qu'ils ne peuvent pas prendre ce salut à la légère. Il a coûté trop cher au Seigneur pour qu'ils se permettent de faire n'importe quoi. Pierre, dans son épître, dit un petit peu la même chose. Nous connaissons ces belles paroles. 1 Pierre, chapitre 1, verset 18. « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. » Quand il écrit cela, Pierre essaye de motiver les chrétiens à vivre dans la sainteté et à bien se conduire, en se souvenant que le sang précieux de Jésus-Christ a été versé. Le souvenir du prix élevé payé par Jésus-Christ pour nous libérer doit nous booster à vivre différemment, pour Jésus-Christ, en nous éloignant du péché. Dans un village des Indes, vivait une pauvre veuve. Elle n'avait qu'un fils qui, en grandissant, était tombé sous l'influence des mauvais camarades. Il était devenu un buveur et un joueur. Il avait d'abord fait des gains, qui l'avaient poussé à jouer des sommes toujours plus importantes. Finalement, il avait perdu tout son argent, et comme il ne pouvait plus rembourser ses dettes de jeu, il avait été jeté en prison selon la législation du pays. Il ne devait pas en sortir que lorsque ses dettes auraient été payées. Le malheureux passait d'interminables journées à rêver au jour où il pourrait sortir. Il avait d'abord compté sur ses amis, mais ceux-ci l'avaient abandonné. Quant à sa mère, elle était trop pauvre, et d'ailleurs, depuis des années, il n'avait cessé de lui désobéir et de repousser tous ses conseils. Mais voici qu'un jour il vit la porte s'ouvrir et son geôlier lui crier « Tu peux sortir, tu es libre, quelqu'un a payé ta dette. » Il se précipita au dehors, prenant le chemin de la maison de sa mère. Où aurait-il pu aller d'ailleurs? En approchant, il l'aperçut debout, près de la porte. Cette vue le bouleversa et il courut se jeter en pleurant dans ses bras. Comme il était là, serré contre elle, ses yeux tombèrent sur les mains de sa mère. Et il s'étonna d'y voir de longues cicatrices. « Mais maman, que t'est-il arrivé? Qui t'a fait ces affreuses cicatrices ?»« Mon fils, n'en parlons pas, ce n'est pas la peine. »« Si, maman, je veux savoir. » »« Eh bien, mon fils, pour payer ta dette, je me suis engagé comme manœuvre dans un chantier. Les pierres ont déchiré mes mains, comme tu le vois. Mais maintenant, tout est bien, tu es libre, ne parlons plus de cela. »« Oh, maman !» Tu as fait cela pour moi qui t'ai fait tant de peine. » À quelques jours de là, les amis du jeune homme apprirent sa libération, le félicitèrent et l'invitèrent à retourner avec eux. Mais lui leur montra la porte. « Par mes fautes, j'ai trop fait souffrir ma mère, je ne retournerai jamais avec vous. » Et il tint parole. Le prix élevé par Jésus-Christ pour nous mettre en liberté doit produire dans le cœur de celui qui en a bénéficié, un profond désir de vivre autrement. Je termine aussi en disant cela. La rédemption doit produire en nous gratitude, reconnaissance, louange à Jésus-Christ. Et on n'a pas le droit de se taire. Vivement ce temps où nous pourrons élever tous ensemble la voix et dire « Seigneur, merci Jésus-Christ de nous avoir rachetés ». Je termine simplement en lisant la première strophe de ce vieux cantique et beau cantique. Rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché, tes coups, l'angoisse même, tes peines, tes tourments me disent, vois je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Seigneur, nous voulons te louer et te bénir. Parce que tu as payé le prix fort, un prix élevé, celui de ton sang. Ta rédemption nous parle que la croix a été l'acte par lequel le marché a été conclu. Satan a été obligé de nous libérer. Et désormais nous t'appartenons, nous qui avons placé notre foi en Jésus-Christ. La rédemption nous rappelle que nous sommes libres, mais aussi ta propriété, et que la plus grande des libertés, elle est dans le fait de t'appartenir. Seigneur, on ne peut plus vivre comme avant quand on se souvient de ce que tu as fait pour nous. Et puis, nous nous rappelons que la rédemption, elle est précieuse. Elle est quelque chose qui va nous booster, quelque chose qui va nous amener à vivre loin du péché. Elle va nous amener à la reconnaissance. Seigneur, merci pour ta grâce. Je prie pour que beaucoup réalisent ce que tu as fait à la croix et pour tous ceux qui l'ont expérimenté, qu'on ne l'oublie jamais, que l'on ne s'en détourne jamais. Au contraire, qu'elle produise dans notre cœur une explosion de louange et de reconnaissance, de gratitude. Que ton nom soit béni. Amen.